Mais bonjour, ça fait plaisir d'être là ce matin. Ce matin, on termine. Ah oui, on termine sur la souffrance. Il n'y aura plus de souffrance après. C'est pas une garantie. Mais on espère que la façon dont on va traverser nos souffrances vont être différentes. C'est ça qui était le but, le souhait dans tout ça, c'est de nous équiper, de nous préparer à faire face à ces souffrances-là qui, dans la vie, sont inévitables, vraiment inévitables. Cette semaine, je suis allé suivre une formation à Montréal, puis ça touchait directement le sujet de la souffrance. C'est comment accompagner des personnes qui ont vécu un drame, qui sont en situation post-traumatique ou même sur le fait là, où est-ce que les personnes sont en état de choc, que ce soit pour un individu ou un groupe. Et puis, à travers toute la semaine, ils nous donnaient des exemples de situations. C'est déchirant d'entendre tout ce que les gens ont pu traverser. C'était des situations où est-ce qu'eux-mêmes sont intervenus, des choses qu'ils ont vécues, et puis de voir vraiment la souffrance qui est justifiée, qui est présente, qui est intense, et puis de voir comment est-ce que les personnes ont pu revenir de ces choses-là. Peu importe le drame, la guérison est possible. Mais ce n'est pas quelque chose de simple, c'est un processus. Et comme on dit depuis le début de la série, chaque souffrance est unique en fonction de la source de la souffrance, en fonction du type de souffrance, mais en fonction aussi de la personnalité, de l'histoire de chaque individu et de ses craintes, de ses aspirations et ainsi de suite. C'est inévitable, on va tous avoir des souffrances dans notre vie et puis la façon dont on va traverser ces souffrances-là va faire toute la différence sur le fruit que la souffrance va avoir dans notre vie. On a vu beaucoup, beaucoup de sujets depuis le début. On a parlé de beaucoup de choses. Entre autres, on a parlé de la souveraineté de Dieu à travers tout ça, hein. Dieu n'est pas surpris ou contrôlé par la souffrance. Au contraire, Dieu est au-dessus de la souffrance. Dieu est au-dessus de tout ça. Dieu contrôle, mais une limite à la souffrance. De se savoir entre les mains de Dieu, d'un Dieu qui est bon, qui est généreux, d'un Dieu qui est gracieux, miséricordieux, ça vient nous rassurer dans la souffrance. On a parlé de plusieurs choses concrètes sur lorsque nous sommes dans la souffrance, comment faire pour s'en sortir, comment faire pour voir la lumière au bout du tunnel, si on peut dire. On a parlé dans les dernières semaines de l'importance de marcher, hein, de ne pas fuir les souffrances, mais de marcher et d'une façon ou d'une autre, d'une façon répétée, de faire un pas à la fois. De marcher à travers chaque journée que le Seigneur nous donne d'une façon constante. Ça prend une certaine discipline, ça prend des habitudes instaurées dans nos vies. Et ces habitudes-là, c'est toujours de les tourner vers le Seigneur, de chercher Dieu, de progresser avec le Seigneur, que ça aille bien ou que ça aille mal, de marcher. Parce que le jour où on s'arrête, c'est là qu'on sombre. On s'éloigne. On a vu l'importance de pleurer, d'exprimer nos émotions, de ne pas les garder pour nous, mais d'aller devant le Seigneur et d'exposer notre cœur tel qu'il est, sans restriction. On a parlé de faire confiance à Dieu, que même si pour l'instant, ce que l'on vit est difficile, qu'on voit pas la fin, qu'il n'y a pas d'espoir, de toujours se rappeler qui est Dieu, de se rappeler qu'il a chaque chose entre ses mains et il nous aime. Et puis, avec cette souffrance-là, avec ce temps difficile-là, il a aussi prévu un moyen de s'en sortir. Fait que la confiance en Dieu, en sa souveraineté. Prier, on a encore là regardé à Job qui a prié, qui a crié à Dieu, qui a exposé son cœur devant le Seigneur, ses questionnements, ses interrogations. Il a constamment amené devant Dieu. Après ça, on a parlé des trois disciplines essentielles. On a passé deux dimanches sur ça. La pensée, hein? De faire de nos pensées une discipline, d'exposer notre pensée aux choses qui sont bonnes, louables, d'exposer notre pensée constamment à la vérité. Constamment à la vérité. La pensée, c'est la première chose sur laquelle on a un contrôle face à une situation. C'est la première étape où est-ce qu'on interprète la situation, où est-ce qu'on prend une décision face à la situation qui va avoir un impact émotionnel, qui par la suite va avoir un impact sur nos actions, sur la façon dont on va agir. Et par la suite, on a pris le temps de regarder l'importance de remercier avant même que le Seigneur ait répondu, d'être dans la reconnaissance, de dire merci. Parce qu'on sait qui est Dieu. Et on sait que ce que Dieu va nous donner, la réponse qu'il va nous donner, va être toujours dans le meilleur de notre intérêt. Pour nous, mais avec une perspective, notre intérêt, pas nécessairement physique, matériel ou de ce monde, mais avec une perspective éternelle, qui est une perspective qui est difficile pour nous d'avoir pendant qu'on est encore sur la terre. Mais Dieu l'a, lui. On peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance et on peut déjà le remercier. Et puis, on a parlé d'aimer, de constamment s'exposer à la beauté de Dieu. Que l'amour, ce n'est pas un sentiment qui se force. L'amour, c'est une réponse. C'est une réponse à ce que nos cœurs voient et constatent que c'est bon et aimable, que ça leur fait du bien. Et là, l'amour va se créer. Et l'amour va attacher nos cœurs au Seigneur. Tout ça va ensemble. Et chacune de ces étapes-là ne viennent pas nécessairement dans un ordre précis, mais elles sont toutes importantes comme étant un tout. Il en manque une. C'est celle qu'on va parler ce matin. Est-ce que vous savez c'est laquelle? C'est quoi? C'est l'espoir. Espérer. Ce matin, on va parler d'espoir. C'est le dernier dans la liste, mais ce n'est pas parce que c'est le dernier qu'il est moins important. Au contraire. Donc, ce matin, on va parler d'espoir. Et j'aimerais vous poser une question. Pourquoi est-ce important, l'espoir? Parce que c'est le nom de notre Église, Espérance. Oui, effectivement, j'avais fait le lien aussi. J'aime beaucoup ce nom-là parce qu'il est très riche de sens pour la culture d'aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que l'espoir, c'est important? OK, parce que c'est ça qui nous fait avancer. OK. S'il n'y a pas d'espoir, t'arrêtes. L'être humain ne peut pas vivre sans espoir. Oui, si tu n'as pas d'espoir, tu vis dans le désespoir. C'est quand même vraiment gros ce qu'on vient de dire là. L'être humain ne peut pas vivre sans espoir. Ce matin, j'aimerais vous faire entendre une chanson. Et puis, on va s'en reparler après.
Je suis au bout, je ne sais plus par où tourner. Tellement coincé, tellement perdu. Comme l'homme aveugle, j'ai besoin d'être guidé. Tends-moi ta main, tout seul je n'y arrive plus. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider à vivre? Y a-t-il quelqu'un que je pourrais suivre? Dans ce village, dans ce pays, sur cette terre, y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Comme l'oiseau aux ailes brisées, je désespère. En manque de soins, en manque d'amour. Sur mes genoux ce soir je récite une prière, en espérant voir un plus beau jour. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider à vivre? Y a-t-il quelqu'un que je pourrais suivre? Dans ce village, dans ce pays, sur cette terre, y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider à vivre? Y a-t-il quelqu'un que je pourrais suivre? Dans ce village, dans ce pays, sur cette terre, y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un?
Aviez-vous déjà entendu cette chanson-là? Ah oui, dans l'heureux naufrage, oui, ils l'ont pris, le film, oui, effectivement. C'est une chanson de Damien Robitaille. Y a-t-il quelqu'un? Qu'est-ce qui caractérise ce qu'il est en train de nous exprimer? Le stress, il y a vraiment une notion de désespoir profond, là. Dans la chanson. Y a-t-il quelqu'un? Je suis au bout, je ne sais plus par où tourner, vers où me tourner. Tellement coincé, tellement perdu. Comme l'homme aveugle, j'ai besoin d'être guidé. Tends-moi ta main, toi seul, tout seul, je n'y arrive plus. L'espoir, quand le désespoir s'est installé, c'est à ce moment-là qu'en quelque sorte, on arrête de marcher. On arrête d'avancer parce que quand le désespoir s'est installé, il n'y a plus de raison pour marcher. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça donne? Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus de raison de marcher. Aucune place où aller. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider? Et puis, c'est pas aider à faire l'épicerie, là. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider à vivre? C'est profond, là, comme désespoir. C'est pas que il est plus en mesure de faire les choses du quotidien, puis il il y a un obstacle, puis il a besoin d'aide, qu'il a besoin d'un lift, il a besoin de quelque chose qui lui rendrait la vie plus facile. Non. Il n'est plus en mesure de vivre. Il ne sait plus comment vivre. C'est vraiment un vide d'espoir. C'est une solitude, c'est une détresse profondément installée dans son cœur. Comme un oiseau aux ailes brisées, je désespère. Un oiseau qui a une aile brisée est au désespoir parce qu'elle est sûre que sa fin est proche. Son espoir de pouvoir s'envoler, d'échapper à l'ennemi, d'échapper à son prédateur, est vain. En manque de soins, en manque d'amour. Sur mes genoux ce soir, je récite une prière en espérant voir un plus beau jour. Quelqu'un qui pourrait l'aider à vivre. Y a-t-il quelqu'un dans ce village, dans ce pays, sur cette terre? Une recherche profonde. Et c'est aussi à travers ça un constat, tu sais, à travers le village, le pays, sur cette terre, il y a une notion de prise de conscience globale sur le sort de l'humanité aussi, à travers cette phrase-là. Et à travers cette chanson-là, Damien Robitaille exprime, je suis convaincu, un désespoir profond qui est installé dans le cœur des gens. Oui, Robert.
Mais il y a un désir aussi profond.
Oui, il y a un désir, ça manifeste un désir. C'est un cri à l'aide. C'est un cri à l'aide, vraiment. Oui, j'aime que tu soulèves ce point-là parce que c'est devant le constat, il veut pas en rester là pareil. Il veut pas rester là. Il dit, il doit quelque part avoir plus. Et là, il regarde au village, il regarde au pays, il regarde au monde. Il y a sûrement quelqu'un sur la terre qui va m'aider à vivre, qui va me prendre par la main, qui va me donner l'amour dont j'ai besoin, qui va donner un sens, qui va donner un sens à ce pourquoi je suis là. Et on sait très bien que la réponse ne se trouve pas dans le village, dans le pays ou sur la planète. Ce après quoi il crie ne se trouve seulement qu'en Dieu. Et c'est pour ça, lui-même le reconnaît, hein? Sur mes genoux ce soir, je récite une prière. Devant le constat de l'incapacité humaine de répondre à son besoin, son désir profond, qui est de vivre, de savoir comment vivre, d'être aimé, ben, il se tourne vers Dieu. Et c'est quelque chose qui est inscrit dans le cœur de l'homme. C'est quelque chose de présent chez tous les êtres humains. Je trouve ça très intéressant que Damien ait écrit une chanson comme ça. Il a réussi à mettre des mots sur un cri du cœur que beaucoup de gens vivent sans en nécessairement être capables de mettre des mots dessus. Je suis allé sur YouTube, puis il y a d'autres personnes aussi qui interprètent cette chanson-là. C'est touchant et à la fois c'est troublant d'entendre les gens chanter ce cri du cœur-là. C'est difficile de s'imaginer que c'est pas un cri qui vient de leur cœur à eux. L'élément le plus concret pour ceux qui souffrent, est qu'ils aient de l'espoir. L'érosion ou la perte d'espoir rend la souffrance intolérable. L'absence d'espoir rend la souffrance insoutenable. Des fois, on voit des gens qui passent à travers des souffrances tellement difficiles qu'on se demande comment est-ce qu'ils font. Et la chose la plus importante, une des choses les plus importantes, c'est au niveau de leur espoir. C'est ce qui va faire la plus grosse différence. Ce que vous pensez de votre avenir détermine totalement votre façon actuelle de vivre. La façon dont vous percevez votre avenir, la façon dont vous analysez votre avenir, ce que vous espérez sur votre avenir, détermine aujourd'hui la façon dont vous allez vivre. Et c'est un principe qui est universel. C'est pour ça que l'espoir est si important. Ma vision que j'ai de mon futur va déterminer la façon dont je vais agir aujourd'hui. L'espoir fait toute la différence sur comment je vais supporter ce qui est devant moi aujourd'hui. Et on le voit à travers l'histoire également. Il y a plein d'histoires par rapport à l'espérance puis à l'espoir. Puis une d'entre elles, il y avait deux hommes qui ont été mis en prison. Juste avant de rentrer en prison, il y en a un des deux qui a appris que sa femme et sa fille étaient décédées. L'autre avait appris que sa femme et ses enfants l'attendaient. Deux personnes sont emprisonnées en même temps, vivent sous les mêmes conditions. La seule différence entre les deux, c'est leur perspective de leur futur. L'espoir de demain. Celui qui avait appris que sa femme et sa fille étaient décédées, après 2 ans, il est décédé en prison. Seul, dans sa cellule, recroquevillé dans son coin, rongé par le désespoir. L'autre, après 10 ans, il a été libéré. Puis il a pu retrouver sa femme et sa famille. 10 ans à vivre dans l'injustice, dans des conditions insalubres, très difficiles comme conditions, il a pu les supporter pendant 10 ans à cause de sa perspective de l'avenir. L'autre, après 2 ans, il n'y avait plus de raison de vivre. Puis il en est mort. Leur vision du futur a déterminé leur façon d'appréhender le présent. C'est pas très compliqué ce qu'on va voir ce matin. On a déjà vu l'ensemble. Mais écoutez, c'est tellement important. Et ça m'a emmené à travers la préparation de tout ça, de poser mes regards, justement, d'une façon plus précise sur l'espoir, justement, que les Écritures nous donnent par rapport à notre futur. Ça m'a fait réaliser à quel point, ça m'a fait réaliser encore davantage à quel point Dieu comprend l'être humain. Parce que d'un début à l'autre, il nous donne tellement, tellement, tellement de raisons pour espérer. À travers la série sur la souffrance, on a vu la solution ultime que Dieu veut donner à la souffrance. On a vu que la solution que Dieu va apporter est ultimement au-delà de ce que la solution que l'homme désire apporter pour la souffrance. On a vu, l'être humain fait plein de choses pour diminuer la souffrance dans ce monde. Fait plein de choses pour diminuer les injustices, la douleur et éviter la mort également. Et tous ces efforts, en réalité, sont vains. Parce que, oui, ça apporte un réconfort, oui, ça apporte un soulagement, ça diminue les souffrances dans le monde, c'est une bonne chose. Mais ultimement, ils ne pourront jamais l'éradiquer. Ils ne pourront jamais l'enlever totalement. Parce que la souffrance, le mal, prend racine dans des domaines que l'homme n'a aucun pouvoir et contrôle. Ça va au-delà de la capacité humaine. Et c'est pour ça que la solution que Dieu va apporter, elle est ultime. Parce que Dieu a un contrôle et a une autorité dans toutes les sphères dans lesquelles le mal, la souffrance prend racine. Toutes les sources des souffrances, bien, Dieu a un contrôle, une autorité sur ces sources-là. Et c'est lui seul qui est en mesure de les éradiquer. OK? Donc, dans tout ce que Dieu dit qu'il va faire, elle est là qui se trouve, elle est là la solution. Et quand on regarde dans les Écritures, il revient constamment sur le futur de ce qui nous attend. Et le livre de l'Apocalypse est un des meilleurs exemples. À l'origine, on regarde souvent le livre de l'Apocalypse pour déceler les temps de la fin. Hein? Il y a beaucoup d'heures d'études dans le livre de l'Apocalypse parce que ça concerne le futur. Et l'être humain est curieux face à son futur. Et il y a beaucoup de personnes qui vont se perdre dans l'étude des choses de la fin, même si c'est une étude qui est une étude des Écritures, ce qui est une bonne chose. Mais même pour un chrétien qui s'y consacre, c'est facile de se perdre. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est facile de perdre le sens premier pour lequel l'Apocalypse a été écrit. Est-ce que vous connaissez le sens premier pour lequel l'Apocalypse a été écrit? À part nous dire les choses de la fin, puis qu'on ait du plaisir à étudier ces choses-là. C'est clair que ça a un rapport avec le sujet qu'on parle aujourd'hui. Facile, c'est ça que je vous dis ce matin, c'est pas très difficile. C'est pour nous donner de l'espoir. Quand l'Apocalypse a été écrit, les chrétiens faisaient face à des persécutions terribles, affreuses. Les chrétiens étaient enduits dans une huile. Il était planté sur des poteaux, puis il était brûlé vif pour éclairer les rues. Il se faisait emmener dans les stades, où est-ce qu'il se faisait manger par les animaux. Les gens faisaient des jeux avec eux autres. Entre autres, il y a un empereur, il enterrait les chrétiens dans le stade jusqu'au niveau de la tête, puis après ça, il s'amusait, puis il passait là-dedans avec ses chevaux, puis son char, puis avec des lames chaque bord, puis il s'amusait. Hein? Faisait des carnages. Les chrétiens de l'époque étaient persécutés. Énormément. Et c'est dans ce contexte-là que l'Apocalypse a été écrit. Dieu a donné à Jean ce que les chrétiens avaient besoin de savoir sur leur futur pour être en mesure de passer à travers les persécutions, les souffrances et les moments difficiles qu'ils étaient en train de vivre dans leur présent. Et ultimement, à la fin de l'Apocalypse, Apocalypse 21, versets 1 à 5, ça dit ceci. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Apocalypse 21. « Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Et la mer n'était plus. Verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » J'aime le fait que Dieu spécifie à Jean, à la fin, écris. Écris-le. Ne manque pas un mot de ce que je viens de dire. Écris-le. Car ces paroles sont certaines et véritables. C'est Dieu qui parle. Ces paroles sont certaines et véritables. Cet espoir-là que Dieu vient de donner à son peuple ne dépend pas de ce que l'on vit ici sur la terre. Elle ne repose pas dans le monde qu'on connaît. Donc, peu importe les circonstances que l'on vit dans ce monde-ci, de toute façon, le monde tel qu'on le connaît va être détruit. Rien de ce qu'on va vivre n'a un rapport avec le monde présent ici. Dieu va refaire toute chose nouvelle. Et on ne parle pas d'un monde spirituel ici, là. Ce n'est pas une métaphore ou un symbole ou une image. On dit souvent on va aller vivre au ciel, on va être au ciel. C'est pas au ciel, c'est sur la nouvelle Jérusalem qu'on va passer l'éternité. C'est un monde physique. C'est un monde tangible. C'est un monde tangible. C'est une nouvelle terre. Et Dieu va habiter sur cette terre. Lui-même va vivre avec nous, va vivre parmi nous. Et il y a l'élément de la consolation qui va être présent. Il va essuyer toute larme. Dans cette phrase-là, Dieu nous dit qu'on va recevoir consolation pour toutes les larmes qu'on a versées pendant qu'on était sur la terre. Peu importe la source de nos larmes, de notre larme, elle va recevoir pleine consolation. Aussi tragique la situation peut être, la solution que Dieu va donner ultimement va trouver pleine satisfaction et consolation. Quel espoir merveilleux pour des gens qui étaient en train de traverser des situations qui étaient humainement impossibles. Et est-ce que ça a fonctionné? Cet espoir-là, est-ce que les chrétiens l'ont reçu, l'ont perçu? Absolument. La façon dont l'histoire relate que les chrétiens ont passé par-dessus ces épreuves-là, la façon dont les chrétiens ont fait face à ces tortures-là, elle est juste phénoménale. Les chrétiens chantaient, apportaient des louanges juste avant de se faire tuer. Les chrétiens pardonnaient à ceux qui les mettaient à mort. Ils ont chamboulé, bousculé le monde tel qu'ils étaient connus à cette époque-là. Ce qui a fait en sorte que le christianisme n'a fait que grandir. Parce qu'il y avait quelque chose, il y a quelque chose de surnaturel chez ceux qui ont cet espoir-là. Quelque chose qui ne dépend pas des circonstances et quelque chose qui vient enlever le pouvoir entre les mains de ceux qui essaient de les épouvanter, de les dissuader. Quand quelqu'un essaie de faire peur à l'autre et que ça réussit, la personne, elle a peur. Qu'est-ce que ça fait à l'oppresseur? Ça lui donne un pouvoir. Ça lui donne une autorité. Et c'est ça qu'il veut rechercher, en réalité. Il veut assurer son contrôle sur l'autre. Mais quand, par des tentatives extrêmes, il essaye, mais ça ne marche pas. Imaginez à quel point l'oppresseur est déstabilisé. Il ne comprend plus. Ça l'enlève le pouvoir. Et je suis convaincu que Satan essayait de regagner du pouvoir sur les chrétiens par la persécution, par les souffrances. Satan essaie de reprendre un pouvoir qu'il a perdu. D'une façon légale, ils n'en ont aucun pouvoir. D'une façon légale, quand on est en Jésus-Christ, nous sommes déclarés justes par le juge. Le marteau est tombé, le jugement est rendu, nous sommes déclarés justes et Satan n'a plus de pouvoir sur nous. Maintenant, Satan a le pouvoir que nous, on lui donne. Satan, c'est un usurpateur. Il ne respecte pas la déclaration que Dieu a faite sur nous. C'est un voleur, c'est un tyran. Il va essayer, par tous les moyens possibles, de regagner ce qui lui a été enlevé. Et la peur qu'on garde dans notre vie est un moyen pour Satan de reprendre ce contrôle-là dans chacune de nos vies. Et regardez l'emphase que Dieu met sur l'espoir, sur ce qui nous attend, pour déjouer le jeu de Satan. Quand on regarde, on va tourner aussi dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Ça dit ceci, c'est un passage qu'on étudiait quand on a fait la série sur 1 Pierre. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Il vient de définir, l'espérance qui est devant nous, ce n'est pas une espérance de mort. Oui, la mort va venir un jour nous arracher, mais est-ce que cette mort-là est la fin? Absolument pas. Il y a un pasteur qui essayait d'expliquer à sa fille une situation difficile pour lui redonner de l'espoir. Il venait de perdre son épouse, la mère de la petite fille venait de mourir. Et il y avait une grande tristesse, il y avait un désespoir, situation très difficile. Le père essayait de lui expliquer ce qu'elle avait besoin de comprendre sur la vérité dans laquelle maintenant sa mère se trouvait. Et à un moment donné, ils étaient sur la route et ils ont croisé un gros camion. Et quand ils ont croisé le camion, l'ombre du camion a passé par-dessus eux. Et là, il a posé la question à sa fille, il dit... J'ai une question pour toi. Si je te donne le choix entre ce que l'ombre du camion passe sur nous ou le camion passe sur nous, qu'est-ce que tu choisis? Ben, elle va dire, l'ombre, c'est sûr. Pourquoi? Parce que l'ombre est inoffensive. Elle ne nous fait rien. Mais si c'est le camion qui nous frappe, là, les conséquences sont tragiques. Et il a expliqué, tu dis, c'est la même chose pour ta mère. L'ombre de la mort est passée sur elle. La mort est inoffensive. La mort ne l'a pas détruit. Oui, l'ombre de la mort est passée. On ne la voit plus ici. Mais en réalité, de l'autre côté, elle est bien vivante. Et elle est encore plus vivante que ce que nous le sommes présentement, à cause du monde dans lequel on vit. Et tout ça est possible à cause que le camion a frappé Jésus-Christ. Jésus-Christ, sur la croix, il a reçu le camion de plein fouet, à notre place, pour que maintenant, aujourd'hui, la seule chose qui nous frappe, c'est l'ombre de la mort, quand on est placé en Jésus-Christ. La mort ne détruit pas si on est en Jésus-Christ. Et on parle de la destruction ultime puis éternelle. C'est une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, parce qu'il a vaincu la mort. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est un héritage qui est protégé par Dieu lui-même, qui n'est pas affecté par la rouille, il ne peut pas se souiller non plus, le mal ne peut pas le souiller, ne peut pas le corrompre. Et c'est gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Puis il dit par la suite, verset 6, « C'est là ce qui fait votre joie. » Cette espérance-là que vous avez de votre futur, elle est tellement certaine, elle est tellement grande, tellement vraie, que c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, et on a vu pourquoi qu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. La perspective du futur pour nous aider dans notre présent. Elle est partout dans les Écritures. Elle est partout. On peut tourner dans Romains aussi. Chapitre 5. Versets 1 à 5. Romains 5, versets 1 à 5. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Encore la notion de voir les différentes épreuves comme une source de joie. On n'est pas détruit par nos souffrances à cause d'une chose, notre espérance dans ce qui est à venir. Est-ce que ça veut dire que on n'a pas le droit en tant que chrétien de trouver ça difficile? D'être attristé? Ouais. On est attristé pour un peu de temps? Ce qu'on est en train de voir là ne nous enlève pas le droit de pleurer, de crier, de remettre en question, de faire face à cette souffrance-là. Ça serait facile de dire « Arrêtez donc de chialer, regardez ce qui vous attend » au ciel, puis prenez-vous sous toi, là, prends sous toi, là, puis redeviens fonctionnel un peu, là. Ce serait tentant de vous dire ça, hein? Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et Dieu le sait très bien. Tout ce qu'on a vu avant dans la série ne nous permet pas de dire ça, ne nous donne pas le droit d'être stoïque comme ça. Puis on l'a développé. Et je veux le rappeler ce matin parce que c'est important. Mais malgré notre souffrance, on a le droit de l'exprimer, c'est correct puis c'est normal. Mais cette espérance-là est toujours présente. Et c'est cette espérance-là qui nous permet de marcher un pas à la fois, peu importe la difficulté qu'on a à marcher un pas à la fois. Si le pas qu'on est capable de faire aujourd'hui, il est tout petit. Bon, on a été capable de faire ça. Une personne qui réapprend à marcher après avoir perdu l'usage de ses jambes suite à un traumatisme, à un accident. Chaque petit mouvement est une victoire. Et la chose qui va lui permettre de refinir, de regagner l'usage de ses jambes, c'est son espérance de remarcher un jour. C'est il se projette dans son futur et ça lui donne l'énergie, la force nécessaire de faire un pas à la fois. Et c'est quelque chose de très difficile, de très souffrant, d'épuisant. Mais il y en a qui le font, qui réussissent, puis il y en a qui ne réussissent pas. Et la différence entre les deux, c'est l'espoir qu'ils ont. Dans Romains 15, verset 13, ça dit « Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, c'est lui qui nous donne notre espoir. Romains 15, verset 13. C'est Dieu qui est l'auteur de cette espérance-là. C'est lui qui en est la source, c'est lui qui en est l'initiateur. C'est lui qui déclare dans Apocalypse, verset 21, 1 à 5, qui déclare, voici ce qui s'en vient. Et elle, c'est mon œuvre. Écris ces choses parce qu'elles sont certaines et véritables. C'est Dieu qui est l'auteur de cette espérance-là. Et c'est une requête que Paul demande à Dieu, que Dieu qui est l'auteur de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Avoir foi dans ce que Dieu nous dit. Mettre notre confiance en lui, dans ce qu'il nous promet, dans ce qu'il nous déclare, est essentiel. Par la suite, il dit, « Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit, à la mesure de notre foi. » Est-ce que nous vivons notre quotidien avec cette perspective d'avenir que Dieu nous donne aujourd'hui? Est-ce que notre quotidien, est-ce que la journée d'aujourd'hui, vous la vivez en fonction de ce qui s'en vient? Est-ce que notre confiance est réellement dans ce qui s'en vient? Ou croyez-vous que quand vous mourrez, on va simplement pourrir, que le seul bonheur possible se trouve sur cette terre, qu'un jour le soleil s'éteindra et avec lui toute trace de civilisation? Si on voit la vie comme ça, le bonheur qu'on vous vole aujourd'hui vous est volé pour toujours. Si votre seul espoir d'être heureux se trouve ici sur cette terre, celui qui va vous le voler ou qui essaye de vous le voler va devenir votre ennemi juré. Et tout ce qui va vous enlever votre bonheur, votre potentiel de bonheur, va être votre ennemi. Si votre perspective s'arrête seulement sur cette terre. Donc, toute tragédie, tout événement difficile n'aura aucun sens, sauf celui de vous avoir volé votre joie et votre bonheur, ce qui est complètement inacceptable. Ou croyez-vous aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre, au jugement dernier où tout acte mauvais et toute injustice trouveront réparation? Croyez-vous que vous allez vers un avenir qui est fait de joie éternelle? Selon votre manière d'envisager l'avenir, vous allez gérer vos donjons, vos souffrances, de deux manières fondamentalement différentes, en fonction de la perspective de l'avenir que vous avez, les deux qu'on vient de présenter. ça va déterminer d'une façon très significative la façon dont on va vivre nos souffrances, nos donjons, tout au long de notre vie. On a vu beaucoup, 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 beaucoup de choses dans la série sur la souffrance. Beaucoup de choses sont plus faciles à dire qu'à vivre d'une façon concrète. Et à travers tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a apporté, oui, c'est facile à déclarer, à dire, mais quand on a les deux pieds dedans, c'est très difficile. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier que quand on est dans la souffrance, c'est pas juste une question de pensée, de vérité théologique. Et que ce n'est pas nécessairement une pensée théologique qui va nous consoler. À certains moments dans nos souffrances, oui. À d'autres moments, c'est seulement la présence, l'amour, le soutien d'un frère, d'une sœur, puis du Seigneur aussi, qui va faire toute la différence. Et c'est un processus qui va valider toute la théorie qu'on a vue ensemble, un processus qui est parfois long et pénible, va démontrer que tout ce qu'on a vu en théorie est vrai. Que tout ce qu'on a vu qui nous est révélé dans les Écritures sur la souffrance, sur la préparation, sur comment le traverser, bien, c'est en le vivant qu'on va voir que c'est beaucoup plus que juste des paroles en l'air. Ce sont des vérités concrètes et pratiques qui font la différence tous les jours de notre vie. Mais pour en découvrir les profondeurs et l'importance, il faut traverser ces moments difficiles-là en s'appuyant sur ces vérités-là. À travers la série, c'est ça qu'on a fait. On les a visités. On se les a rappelés et on a encore besoin de se les rappeler, de se les rappeler, de se les rappeler encore et encore en préparation ou en soutien quand on est dans la souffrance. J'espère que ça vous a été utile, profitable aussi. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont traversé des épreuves très difficiles dans leur vie et que beaucoup, beaucoup ont trouvé un réconfort, ont trouvé de l'espoir dans ce qu'on a vu ensemble ou dans une des choses qu'on a vues ensemble. Certains vont dire, ben moi, ça a été la souveraineté de Dieu. Ben moi, ça a été vraiment la perspective qu'un jour, on va être avec lui puis tout ça va être derrière nous. Et chaque histoire est différente. Mais dans chacune de ces histoires-là, il y a quelque chose qui rejoint un des sujets qu'on a vus dans tout ça. Moi, en tout cas, ça m'a été très profitable. J'ai vraiment été béni à travers tout ça. Et puis, de voir la grandeur de l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu. Le Seigneur, il nous connaît tellement. Il est tellement bon envers chacun de nous. Et même dans une période difficile, Dieu continue d'être bon, d'être présent et d'être proactif dans chacune de nos vies. Peu importe la situation. Est-ce que vous auriez des choses à dire, à partager par rapport à ce qu'on a vu depuis les derniers mois? Oui, Lise.
Moi, je pense que quand on regarde tout ce qu'on a pu voir, si aujourd'hui je peux rester fidèle, attaché encore au Seigneur, si je n'aurais pas cette espérance, je vois que, comme tu as mentionné, on meurt, on a un trou, puis c'est fini. Mais c'est cet espoir qui est là, qui est, elle est vivante, elle est en nous. Alors, c'est ça qui me fait que moi, je suis encore fidèle au Seigneur aujourd'hui. Mm-hmm. Sans ça,
il n'y aurait pas de raison. Il n'y aurait pas de raison de se donner tout ce mal-là au quotidien. Il n'y en aurait pas. Merci, Lise. Quelqu'un d'autre?
tandis que mes enfants m'ont abandonné, pour avoir Dieu dans la vie, j'aurais tout abandonné et je me serais retourné où j'étais. Mais l'espoir que Dieu m'a donné, cet espoir a grandi pour que eux-mêmes voient Dieu dans lui. Et c'est ça qui m'a tenu. Gloire à Dieu.
Amen. Oui, Alain.
Moi, ça a été une bénédiction de pouvoir regarder à la souffrance et tous ces aspects aussi qu'il y a dans la souffrance, chacun des aspects. Alors, c'était vraiment pour moi une bénédiction. C'est dommage que j'ai manqué la partie aînée. J'avais pas ce qu'à passer, là. J'ai connu ça.
À passer vite.
Ouais. Mais,
la deux semaines.
C'était pour moi une bénédiction grande et quelque chose à tout le temps à regarder, mémorer. Utile.
Oui. C'est concret.
Oui,
oui Micheline.
Oui, je peux dire que je n'avais pas eu l'espoir envers le Seigneur pendant les 10 années que mon fils a été dans la rue, je ne m'en serais pas sortie. C'est vraiment en regardant au Seigneur, en m'attendant qu'un jour, je savais qu'il allait sortir. J'en étais persuadée. Mon espoir était vraiment fondé là-dessus. Et il le fait. Puis, c'est extraordinaire. Ça grandit notre foi encore.
Oui.
Davantage.
La persévérance dans l'épreuve produit la persévérance dans l'épreuve, ça produit la foi, ça produit tout ce qu'on a vu tantôt là, dans Romains. Effectivement, oui. La victoire, oui, Lourdes.
Moi,
j'étais
étonnée des
versets
que j'ai lus combien est riche ce sujet-là. Et tu l'as développé. Et chaque jour, tu me surprenais d'un autre aspect de la souffrance qui est aussi importante, si essentielle de le prendre en compte. C'était incroyable. Chaque fois, tu m'étonnais. Je dis, comment on va développer ça? Et ça m'a amené encore à. Et la façon comment apprivoiser la souffrance, la connaître, la regarder en face et de prendre conscience qui est partie de nos vies et que notre désir de ne pas souffrir est aussi tellement présent en nous. Mais en même temps, c'est la dualité des deux choses.
Ouais.
On ne peut pas souffrir, mais la souffrance est
elle a...
pareille.
Oui.
Et comment la vivre aussi avec Dieu.
Ouais.
C'était ça que tu nous amenais, comment la vivre avec lui.
Mm-hmm.
Et que aussi que c'est un chemin, c'est pas quelque chose, et que tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a, c'est pas quelque chose qui peut-être va être déjà fondé. Non, c'est un chemin et je pense que c'est normal. C'est un chemin, notre relation avec Dieu aussi. C'est beau ça.
Mm-hmm.
Et maintenant, le sujet qui est tellement beau, comment on va clore le sujet, c'est l'espoir. C'est
ouais.
Beau.
Mm-hmm.
Et je trouve. Et ça aussi, c'est quelque chose de positif.
Oui.
Et qu'on puisse grandir. Et je trouve que ce point-là, on va pouvoir l'écouter plus en le vivant notre souffrance.
Oui. Nos souffrances nous rappellent notre besoin d'espoir.
Tu ne peux pas goûter vraiment à une vie espoir vivante.
Mm-hmm. Ouais.
Théorie.
Ça l'emmène dans le monde concret. Notre espérance devient concrète. Excusez. Dans notre vie, dans notre quotidien. Et ça montre à notre cœur l'importance de s'y accrocher d'une façon concrète et tangible. Merci beaucoup de vos partages. Merci beaucoup, beaucoup apprécié le fait de développer tout ça avec vous. Et puis, ça nous donne du courage, justement, de faire face à nos souffrances, de savoir qu'on n'est pas seul, de savoir que Dieu n'est pas pris au dépourvu dans tout ça. Même au contraire, allons dans la prière. Merci, Seigneur Jésus. Merci de ta parole, Père, qui couvre tous les aspects de l'être humain, qui couvre, Seigneur Jésus, les choses fondamentales qu'on a besoin, Père éternel, pour le temps qu'on est ici, présent dans ce monde, sur cette terre. Seigneur, ça nous démontre encore une fois ta sagesse, ta grandeur, Père éternel, et à quel point tu es digne de louange. Merci, Seigneur. La solution que tu nous as donnée, elle est complète et pleinement suffisante, Seigneur Jésus. Donne-nous, Seigneur, à chacun, Père, de s'accrocher à ces vérités, de s'accrocher, Seigneur, à toi. Peu importe la souffrance, Père, qui traverse. Seigneur Jésus, rappelle à nos cœurs ce qui est devant nous. Rappelle à nos cœurs, Père éternel, que ce n'est pas la fin. Que la fin, elle est bonne. La fin, Seigneur Jésus, elle est amour, elle est consolation également, venant de toi personnellement. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ce temps. Merci, Seigneur, de toucher nos cœurs avec ta parole en fonction de chacun de nos besoins, Seigneur Jésus. Peu importe ce que l'on vit, tu nous comprends et tu as quelque chose de pour nous à travers chacune de ces situations. Merci de ce qu'on peut te faire confiance, on peut s'appuyer sur toi pleinement, peu importe les circonstances. Merci de ta présence, Seigneur Jésus, qui fait toute la différence. Seigneur, sois loué. Dans le précieux nom de ton Fils qu'on te prie. Amen.